Aujourd'hui, nous mettons tout de côté, hein, les messages, les séries de messages, mais nous allons nous consacrer, comme c'est le premier dimanche du mois, à nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Nous avons prêché déjà sur des séries de messages sur les paroles de Jésus quand il était crucifié sur la croix. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible, hein, et nous allons maintenant traiter cinquième et sixième parole de Jésus sur la croix. Plus précisément, aujourd'hui, on va s'intéresser aux sixièmes paroles de Jésus sur la croix. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Cinquième parole. Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Avez-vous remarqué, ici, dans ces versets, c'est très clair, Jean insiste sur une chose qu'il a répétée trois fois. Ici, le verbe accompli. Vous le voyez au verset 28, deux fois, dans le grec à l'original, consommer. Ça, c'est le même mot, téléo. Accompli, aussi, verset 28. Et au verset 30, tout est accompli, accompli. Trois fois. La répétition de ce verbe. Il faut retenir juste deux choses. Je voudrais qu'on se souvienne de cela en partant d'ici sur ce que le Seigneur a fait pour nous. En retenant dans ce verbe accompli le sens. Il y a deux sens de ce verbe dans le grec. Le mot ici, quand on dit tout est accompli, c'est tétélestaï. Ça, c'est le grec, mais littéralement, ça veut dire c'est terminé maintenant et pour toujours. C'est terminé maintenant et pour toujours. Et derrière cette expression « tout est accompli », un seul mot en grec, hein, à la racine, il y a le verbe « téléo », le verbe « accomplir ». Il y a deux sens. Premier sens qu'il faut retenir, ce verbe signifie « achever », « porter à son terme ». À l'époque, un serviteur l'utilisait pour signaler à son maître, hein, j'ai achevé la tâche qui m'a été confiée. Et Jésus lui-même en est l'exemple. Hein. Nous pouvons lire dans Jean 17, 4. Dans ce sens-là, nous lisons Jésus, quand il était entouré de ses disciples, en privé, il a dit, je t'ai glorifié sur la terre, en s'adressant à son Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Vous voyez, ça c'est le premier sens, achevé, porté à son terme. Donc il faut comprendre, hein, une mission achevée, une mission terminée, accomplie. Ça c'est le premier sens du verbe accomplir, hein, une mission achevée. Mais le verbe accomplir aussi, à l'époque de l'Antiquité, signifie entièrement payer, en parlant de dette, ou bien de son obligation de s'acquitter, hein, d'un taxe ou d'impôt. Exactement, c'est aussi le sens du mot accompli, entièrement payé. Et vous savez, on a découvert sur d'antiques reçus d'impôt, en papyrus, la même expression, c'était les saillis, tout est accompli, dans le sens de payer. Les archéologues ont découvert cela, que ce mot est retrouvé dans un reçu d'impôt de l'époque aussi. Donc, ce matin, en partant d'ici, mission achevée. Deuxième sens, tout est entièrement réglé, payé. Donc ce matin, le plan de ce message va s'articuler tout simplement sur ces deux sens de ce mot tétélestai. D'abord, une mission accomplie, c'est le premier point que nous allons aborder. Et deuxième point, entièrement payé. Appliqué à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons regarder premièrement qu'est-ce que Jésus a pleinement accompli sur la croix. Qu'est-ce qu'il a complètement terminé ou achevé? Ça, c'est la première chose que nous allons aborder dans quelques minutes. Et deuxième chose que nous allons aborder, mais qu'est-ce qui est entièrement payé par Jésus quand il s'est offert sur la croix? Donc, nous allons regarder tout simplement une des missions, pourquoi Jésus est venu et qu'est-ce qu'il a accompli sur la croix. Sylvie en parlait tout à l'heure, de l'accomplissement des prophéties. Oui, Jésus a une mission de venir accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Vous me direz, mais pourquoi? C'était important. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient dans une attente du Messie. Et il y avait dans l'Ancien Testament 300 prophéties qui concernaient ce Messie. 300 prophéties. Et elles étaient écrites et prononcées 400 à 800 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, a déclaré qu'il est lui-même l'accomplissement des prophéties, indirectement ou implicitement, il veut dire qu'il est le Messie. Qu'il est le Messie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si vous étiez à l'époque des Juifs où il était là, Jésus? Eh bien, vous scrutez l'Ancien Testament et vous regardez toutes les prophéties, une à une, et vous observez la vie de cet homme qui prétend être le Messie, et vous regardez. C'est ce que nous allons faire. On ne va pas ce matin regarder les 300 prophéties, on va regarder juste 10%, une trentaine. Vous voyez? Je vous ai mis là une trentaine où on trouve facilement l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Je vous ai mis là quelques-uns, on ne va pas tous les citer. Par exemple, une prophétie écrite par Isaïe 7,14, que il sera né d'une vierge. Et oui, c'est accompli dans le Nouveau Testament. 2 Samuel 7, versets 12 à 16, il sera de la lignée royale de David. C'est dit dans l'Évangile selon Matthieu, l'accomplissement. Il sera précédé par un messager. Oui. Ésaïe 40, verset 3, nous avons l'accomplissement en la personne de Jean-Baptiste. Vous voyez, tout ce qui est là, Ésaïe 60, verset 1 à 3, il sera visité par des mages. Nous voyons l'accomplissement dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, ainsi de suite. Il ira en Égypte pour un temps. Oui, quand Hérode voulait tuer tous les enfants, les garçons de 2 ans, ils sont partis. En Égypte. L'accomplissement de Osée 11, verset 1. Il sera rejeté par les siens. Ésaïe 53, verset 3. Oui, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 12. Etc. Etc. Donc, vous voyez, plus d'une, ici, trentaine, à peu près 10% des prophéties, nous voyons l'accomplissement. L'accomplissement. Mais Jésus n'a pas accompli que 30 prophéties, 300. Et quand on scrute une à une ces prophéties, on voit l'accomplissement dans la vie de Jésus durant ses 33 ans de ministère ici sur la terre. Donc Dieu a validé les 300 prophéties. Elles ont toutes été accomplies en la personne de Jésus. Donc le portrait du Messie annoncé dans l'Ancien Testament était parfaitement achevé, sans faille, sans omission. Tout est accompli. Mission achevée. Donc, il est le Messie, le Sauveur attendu. Mais le peuple juif ne l'a pas cru. Parce que eux, ils attendaient un Messie fabriqué dans leur tête. C'est un héros qui va le délivrer du joug romain. Il était venu pour la première fois comme le Messie souffrant. Mais il va revenir, lui-même qui a dit, comme le Messie triomphant. Et nous attendons cette deuxième venue de notre Seigneur. Oui, Dieu a promis, Dieu accomplit. Pas à moitié. Ce qu'il a promis, il a tout accompli. En la personne de Jésus. Et on peut dire, gloire à Dieu, la Bible est fiable. La parole de Dieu est fiable. Et Dieu, on peut faire totale confiance. Ça, c'est la première mission que Jésus est venu accomplir sur terre. Nous voyons aussi une deuxième mission qu'il a achevée. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père pour notre salut. Deuxième mission, il est venu accomplir la volonté de son Père pour notre salut. Juste un passage, Hébreux 10, versets 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre où il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Qu'est-ce que c'est que cette volonté? Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait allusion et cite, fait référence à Psaume 40, versets 7 à 9, ici. Et vous voyez, il applique le psaume qui est écrit plusieurs siècles avant, à l'incarnation de Jésus-Christ. Avez-vous remarqué? Verset 5, Christ entrant dans le monde dit, pour montrer clairement que le Christ est l'accomplissement des sacrifices de l'Ancien Testament. Entrant dans le monde, ça veut dire aussi que Christ a déjà existé depuis toute l'éternité. Sa mort, sa préexistence. Mais il entre dans le monde pour montrer qu'il est l'accomplissement des sacrifices de l'Ancien Testament. Notez bien que le mot sacrifice, ici, au verset 5, se rapporte à tout sacrifice animal. Et notez bien quand il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, donc, rappel à tout sacrifice d'animaux, ni offrande. Offrande, par contre, se rapporte aux aliments et boissons qui peut aussi accompagner le sacrifice. Quand on dit aliments, on parle, vous pouvez faire référence en Lévitique 2, hein, l'offrande de fleurs de farine pour faire de gâteaux, mais sans levain. Et quand on dit boisson, ça peut accompagner le sacrifice, hein, hein, comme le vin, qui sert de libation, c'est ce qu'on verse en dernier autour du sacrifice. Donc, il dit ici, Christ, Dieu n'a ni voulu, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Quelle est cette volonté de Dieu mentionnée dans ce texte? La volonté de Dieu dans ce texte, c'est de remplacer l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Avez-vous remarqué ça? Au verset 9, il dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Qu'est-ce que c'est que cette première chose? Eh bien, le texte nous le dit, les holocaustes. L'holocauste, c'est des sacrifices qui ont été brûlés entièrement. Des sacrifices d'animaux, comme on vient de parler, ça c'est la première chose, l'holocauste, les sacrifices d'animaux, les offrandes. Mais la deuxième chose qui doit remplacer cette première chose, c'est son corps. Son corps. Nous le savons dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, que notre corps sert à glorifier Dieu, n'est-ce pas? Mais ici, nous lisons que Christ, son corps est donné, non pas pour glorifier Dieu, mais pour remplacer, je ne dirais pas remplacer, plutôt substituer au sacrifice de l'ancien système lévitique. Avez-vous noté ça? Pourquoi? Parce que ça devient caduque maintenant. Quand Christ va s'offrir une fois pour toutes son propre corps, c'était dans le but de accomplir l'ombre qu'étaient ses sacrifices chaque fois que les personnes péchaient. Mais maintenant, il va être l'accomplissement, la réalité de cette ombre, hein, de ces sacrifices. Dans Lévitique, il va être accompli une fois pour toutes dans la personne de Jésus qui est la réalité que préfigurait l'ombre. Et donc, cette ombre maintenant va disparaître, caduque. On n'a plus besoin d'en parler, mais à partir de maintenant, quand Jésus s'offre sur la croix, maintenant c'est la nouvelle alliance. Son corps qui est offert pour remplacer ce qui était préfiguré par les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament. Oui, Jésus est l'agneau qui a été désigné d'avance avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 19 et 20, n'est-ce pas? Oui, l'agneau désigné avant la fondation du monde est mort pour vous, pour moi, à la croix. Donc vous voyez, cette mission d'accomplir la volonté de son Père pour s'offrir lui-même en tant que le sacrifice qui accomplit ce qui était anticipé, qui préfigurait par ces sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que la croix est inévitable. Rappelons-nous du contexte maintenant, quand Jésus était crucifié sur la croix. Il a passé les 3 heures les plus terribles et les plus sombres de sa vie. Rappelez-vous, quand jeudi sombre, de midi à 15 heures, les ténèbres couvraient toute la terre. Il a subi les ténèbres du jugement de Dieu. Il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Il a été abandonné par son Père. Rappelons-nous de cela. Mais pourquoi? Parce que Jésus a porté sur lui le poids de chacun de nos péchés. Et quand il a porté le poids de chacun de nos péchés, Dieu, 3 fois saint, ne peut pas regarder le Fils parce que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. D'où il a été abandonné par son Père pendant ces 3 heures horribles. Mais rappelons-nous aussi que la croix, là se rencontre, je dirais, la justice et l'amour de Dieu. Quelque chose apparemment inconcevable, que ça ne peut pas être lié ensemble. Oui, la justice parce que Dieu doit punir le péché. Il a déversé sa colère, le jugement du péché sur son Fils. Mais aussi la croix démontre l'amour de Dieu parce qu'il aime le pécheur. Il ne veut pas qu'il se perde. Il veut qu'il soit sauvé. Et donc, ce matin, retenons que lorsque Jésus proclame sa victoire sur la croix en disant « Tout est accompli, la mission est achevée », nous pouvons entièrement nous reposer sur l'œuvre de Jésus accompli sur la croix pour nous sauver. Mes frères et sœurs, tout est accompli par Christ. Tout est achevé. Maintenant, regardons le deuxième point de la signification de ce mot « tout est accompli », entièrement payé, entièrement payé. Oui, à l'époque, comme je vous ai dit au départ, lorsqu'une personne payait ses taxes, quand le paiement était réglé, la personne obtenait un reçu, inscrit dessus, entièrement payé. C'était l'estaïe. Tout est accompli, entièrement payé. Oui, du point de vue spirituel, nous aussi, on était en situation de dette devant Dieu. La dette de nos péchés était immense, mais Christ vient de supprimer cette dette rédigée contre nous. Pourquoi? Parce qu'il a subi la colère de Dieu à cause de notre dette, nos péchés. Pour chaque péché qui nous endettait, la colère de Dieu se déversait sur Jésus-Christ. Vous imaginez l'enfer que je mérite pour toute l'éternité était comprimé pendant 3 heures. Il l'a porté, il l'a subi. À ma place, à votre place, ça nous dépasse, ça nous dépasse. Heure après heure, dans l'obscurité, Jésus payait notre dette. Il supportait la conséquence du péché à notre place. Donc, Christ a payé entièrement notre dette, et voilà le reçu de Dieu. Tout est accompli. Tout est entièrement soldé. Pour ceux qui mettent leur foi et leur confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur la croix. Vous savez, le reçu que nous voyons dans la Bible est affirmé par ce verset de Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Entièrement payé. On n'a pas besoin de renouveler. Une fois pour toutes, ça c'est le reçu, la quittance, tout est payé. Nous voyons aussi dans ce verset d'Hébreux 9, 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré dans le lieu très saint. Qui rentre dans le lieu très saint? C'est le souverain sacrificateur. Mais il est non seulement un souverain sacrificateur, mais il est aussi le sacrifice dans le Dieu très saint, une fois pour toutes, obtenir une rédemption éternelle. Voilà le reçu. Quelle est l'implication pour nous? Oui, maintenant, Christ a entièrement payé, alors, parce que Dieu a placé nos fautes sur Christ, elles ne sont plus sur nous. Quel soulagement. Vous voyez, le chrétien n'est plus sous la culpabilité du péché qu'il a commis. Oui, nos fautes, Dieu l'a placé sur Christ, ils ne sont plus sur nous. Et si jamais ça nous arrive de pécher, oui, ça va arriver. La voie est ouverte en venant s'appuyer sur ce que Christ a fait, confesser le péché. Dieu nous pardonne et abandonnons le péché. C'est réglé. Ça, c'est pas quelque chose de tangible, mais c'est une réalité spirituelle. Le croyant qui s'appuie parce qu'il a le reçu attestant que ce Christ a fait est suffisant pour tout payer pour ses péchés, parce que tout a été payé, alors il ne peut plus être sous la culpabilité du péché. Oui, sauf les péchés non confessés encore. Quand ça arrive. Quel est le reçu? L'enfant de Dieu n'est plus sous la domination du péché. Avant, la Bible nous disait, nous étions esclaves du péché. Nous n'avons aucun pouvoir de résister. emporté par le courant du péché. Mais maintenant, tout est entièrement payé, nous ne sommes plus sous la domination. On peut dire non au péché. Vous voyez, ça c'est un miracle. Un miracle. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Christ a été maudit à notre place. Ce que nous n'avons pas pu accomplir, la loi que Dieu demandait, il l'a accompli à notre place. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Personne ne peut nous condamner parce que Dieu nous a déclarés justes. Quelle vérité profonde! Il faut se l'approprier, il faut se le prêcher à chaque fois dans nos vies. Donc Dieu a placé la culpabilité, la condamnation, la malédiction sur Christ. Elles ne sont plus sur nous. Donc l'enfant de Dieu est assuré de son salut, de son pardon, de son péché qui est entièrement expié, ôté. Sa dette est entièrement payée. Quel soulagement! Quel soulagement! Voulons-nous considérer attentivement cette parole de Jésus? Tout est accompli. La mission a été achevée seule par Christ jusqu'au bout. Tout a été entièrement payé. Voulons-nous y croire ce matin? Ou bien cherchons-nous encore à ajouter quelque chose à cette œuvre grandiose et parfaite? La vérité, c'est que nous n'avons rien à faire de plus. Car nos œuvres, je dirais même, ne feront que saluer l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Il a dit, tout est accompli, aucune œuvre à rajouter, et notre dette entièrement payée. Si nous plaçons notre foi en Jésus, la parole est claire, nous sommes éternellement pardonnés. Notre vie, depuis ce jour où nous sommes venus à Jésus-Christ, Dieu commence cette bonne œuvre que nous venons mémoriser dans Philippiens 1:6, qu'il rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu est en train de nous transformer. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Et la Bible dit, nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas après la mort. C'est à partir du moment où on a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. C'est une vie de relation personnelle avec Dieu, le Créateur. Alors, ce matin, si vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ, je vous en supplie, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tout est accompli. Il faut se repentir et croire en Jésus. C'est tout. Tout est accompli. Et je dirai à Dieu seul, soit la gloire au siècle des siècles. Amen.